C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien et même très bien sur Odeur Radio 91.3. Nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il est 14h sur notre horloge. Nous sommes le 105e jour de l'année, quoique des fois le 106e et ou alors le 26e dans le calendrier germinal ou républicain. En 759, le concile de Rome condamne le concile de Hiéria et jette l'anathème sur sa loi d'iconoclasme. En 1834, fin de la deuxième révolte des Canus. En 1900, ouverture de l'exposition universelle. 1912, naufrage du Titanic. 1945, les troupes britanniques libèrent le camp de concentration nazi de Bergen-Belsen. Mais qu'en est-il ici et maintenant ? Eh bien, ce 15 avril 2025, sont avec moi en studio celui qui mène combat contre les bafouillages. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien ?
Oui, on a fait un tour dans l'histoire là.
Un petit peu, et encore c'est une toute petite...
Oui, c'est une sélection.
Oui, parce qu'il y en a tellement plus.
Ouf. Le nombre d'années, on les compte plus.
Oh là là, tellement.
Ça va bien en fait ?
Ben oui, bien, bon. Merci. Et vous-même ?
Oui, très bien.
Oui, bon. Et celui qui, contre vents et marées, relit et relit les textes à l'infini. Bonjour Patrick, vous allez bien ?
Bonjour Anne-Lise, oui je vais très très bien, mais je n'ai pas compris la phrase.
Il relit,
relire ou relier ?
Relire et relier.
Ah d'accord, ok, je comprends mieux maintenant.
Il relit et relit.
Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien ?
Oui, très bien, je viens de le dire.
Oui.
Pardon, vous venez de dire que vous alliez bien ?
Oui,
mais je parlais à Anne-Lise, vous me coupez la parole.
Alors
quoi ?
Vous allez bien ?
Bah je vais bien, et vous-même ?
Bah écoutez, très bien.
Et vous Jean-Jacques ?
Allez, aujourd'hui dans Ciné 100, et pour la troisième fois de la saison, nous ouvrons grand nos portes à un invité qui va nous livrer ses préférences filmiques et certains films qui l'ont ému, interpellé, fait rire, fait pleurer. Bref, une petite partie de son panthéon cinématographique. C'est donc une toile blanche qui va s'animer pour notre 26e épisode.
Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Oh, ça valait le détour !
Et cet invité, Patrick, c'est vous qui allez le présenter.
Eh bien oui, je vais vous présenter mon ami Stéphane Guégan, qui est ici avec nous dans le studio.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
C'est formidable. Alors Stéphane a ce site particulier que, bien qu'on se connaisse depuis longtemps, ça reste mon ami, et qu'il est vidéaste, il est ingénieur du son, il fait de la prise de drone, et c'est un garçon qui, bien que breton, a toute ma sympathie.
Hélas, on ne se refait pas, mais on assume tout de même.
Breton du Finistère ?
Morbihan.
Ah oui.
Aïe. Ouais. C'est pire.
Mais vous allez rester
ça
quand
arrive,
même.
Hein.
Ouais,
ça arrive.
Personne n'est parfait.
Je sais.
Non mais on ne vous en veut pas, hein, Jean-Jacques.
Merci. Moi c'est Stéphane, merci.
Oui, excusez-moi. Non, je me mélange, il y a deux Bretons dans la même pièce, c'est trop pour moi.
Ah ouais, Jean-Jacques, vous êtes...
Ça y est, moi j'ai terminé ma présentation
là-bas.
On va redevenir sérieux un peu avec vous, Stéphane. Alors nous vous avons demandé de choisir dans votre filmographie personnelle trois films qui vous sont importants pour diverses raisons que vous allez nous exposer. Et donc, le premier de ces films, je crois que c'est un grand inspirateur pour d'autres films. Il s'agit de... Mais je vous laisse dire le titre.
Alors, le premier d'entre eux qui m'est marqué, on va parler des 7 samouraïs,
oui,
d'Akira Kurosawa.
D'accord.
Film de 1954.
Alors, moi, j'avoue que je ne connais pas le film, donc vous allez certainement faire un petit résumé, un pitch, non ?
Un petit résumé. Donc, dans un village au XVIe siècle au Japon, régulièrement attaqué par des bandits, les villageois s'unissent, font appel à des samouraïs désœuvrés pour se défendre.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est le pitch.
Très bien. Et alors, donc, pourquoi ce film ?
Alors, ce film est assez fondateur pour plusieurs raisons. quand j'étais petit, j'ai demandé à mon professeur de français quels sont les 10 films à voir, absolument, et il y avait les 7 samouraïs dedans, et étant pratiquant de kendo, bah, ça m'a attiré naturellement.
D'accord.
Voilà, et c'est un film qui m'a marqué énormément et que je continue à revoir de temps à autre avec beaucoup de plaisir.
Vous aviez un professeur qui vous avait conseillé 10 films.
Oui, je vais demander s'il y avait 10 films à voir, quand j'avais pas beaucoup de sous à l'époque, donc il fallait faire une sélection. Et il y avait 10 films, il y en avait d'autres, hein, Le Maudit, on va pas tous les citer, mais il y avait Les 7 Samouraïs.
C'est rare qu'un prof propose comme ça.
Bah, c'est l'école publique.
Oui. Alors, j'avoue que j'ai pas vu donc le film, donc je suis béotien sur ça et d'autres choses d'ailleurs. Mais il me semble que le thème central des 7 samouraïs, c'est l'héroïsme en fait.
Alors l'héroïsme, oui et non, je dirais. Moi, c'est pas l'analyse que j'en fais. Je parlerai plutôt d'une unité entre les paysans, et puis surtout une confrontation entre deux époques, une révolue, celle des guerriers, qui va s'annoncer comme telle, tout du moins à la fin, et puis une ère plus prospère. Le film s'inscrit dans deux temporalités, la fin d'une ère de troubles au Moyen-Âge japonais, donc 16e siècle, mais qui précède une grande ère de paix, hein, l'ère Edo, qui va durer jusqu'au 19e. Fin 19e. Et puis le film est de 54. Donc 2 ans avant, il y avait encore les Américains sur place. Le Japon éprouvait aussi peut-être un besoin d'identité nationale forte, de se recontextualiser dans l'histoire et de se projeter dans une ère de paix. Et donc le film parle aussi de ça.
Oui.
Puisque ce sont des paysans qui gagnent à la fin.
Mais alors c'est un petit groupe d'hommes qui défendent des gens de basse condition sociale devant des seigneurs.
Pas ça, devant des seigneurs, devant des bandits. Ah, donc les bandits attaquent le village régulièrement, donc textuellement à la fin des récoltes, ils viennent les piller. Les paysans sont décrits comme assez misérables, pas forcément très intelligents. Et pourtant, parmi eux, il y en a un qui est un petit peu plus malin, qui décide et qui a l'idée de faire appel à des samouraïs désœuvrés pour pouvoir les défendre.
Moyennant argent quand même. Non.
Même pas.
Non,
même pas. Moyennant nourriture.
De la nourriture et le logement.
Bah, en fait, ce sont des gens qui se mettent au service de villageois, des gens qui sont opprimés quand même.
Ils sont opprimés. Ouais.
Et qui le font en mettant en commun leur individualité, ces samouraïs-là.
Alors, ces samouraïs.
Est-ce que ça vous touche, ça, de cette idée qu'on puisse associer des individualités pour faire une action collective?
En fait, les temps sont troublés quand même à cette époque. Les samouraïs n'ont pas forcément d'emploi. Oui. Ça reste des guerriers. Le terme n'existait pas à l'époque. On parlait plutôt de guerriers. Les paysans décident de les recruter contre, effectivement, JT couvert, on va dire ça comme ça. Mmh. Et de par l'éthique, ils décident, une fois qu'ils ont donné leur accord, d'aller jusqu'au bout de la mission.
Jusqu'au bout, ouais.
Voilà. Donc ils les forment, ils leur apprennent à se défendre, ils restent unis. Il faut voir que tout le film est vu du point de vue presque du paysan ou du village.
Oui.
Et parmi ces samouraïs, en fait, ils sont 6, on va dire plus 1, ce qui va faire 7. Il y en a un qui en vérité est un fils de paysan, mais qui se veut samouraï, qui est joué par Toshiro Mifune.
Oui.
Et va faire la jonction en fait entre les paysans et les samouraïs pour que les deux puissent se comprendre en vérité. Et parmi tous ces samouraïs, 4 vont mourir. Parmi les 3 qui restent, on a un jeune samouraï qui se veut devenir samouraï, plus 2 vétérans. Et au final, parmi les 2 vétérans, le plus ancien dit finalement ce sont les paysans qui ont gagné, puisque leur ère est révolue, ils appartiennent au passé. D'ailleurs, les 4 samouraïs qui sont morts sont tués par des arquebuses et non des armes blanches.
D'accord.
Donc pour accentuer encore le côté, c'est la modernité.
On change d'époque. Quoi,
on change d'époque. Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a un lien ou un parallèle que l'on peut faire entre les 7 samouraïs et les 7 mercenaires? Parce que globalement, la trame, de base est sensiblement la même. Des paysans qui sont opprimés.
Mercenaires et sont payés. C'est pour ça que je posais la question.
Oui, bien sûr, j'ai bien entendu, Jean-Jacques. Mais je vais au bout de ma phrase ou vous voulez que je m'arrête?
Non, allez-y.
D'accord, merci. Non, mais voilà, parce que la trame au départ est la même, des paysans qui sont opprimés, qui vont être défendus par des gens certes payés, mais que ce soit avec de l'argent ou que ce soit avec de la bouffe, ils sont payés quand même. Mais
alors, il y a l'intrigue de départ, effectivement, le point de départ est le même. Mm-hmm. Donc des paysans opprimés qui choisissent d'aller faire appel à des hommes d'armes pour se défendre.
Oui.
Il y a quand même des différences importantes sur la fin, c'est-à-dire que vraiment dans les 7 samouraïs, les samouraïs finalement sortent de la société. On voit bien que leur époque est complètement révolue, alors que dans les 7 mercenaires, moi j'ai vu que celui de Sturges, hein,
c'est le seul.
1960. Ah non, il y a eu des.
Il y en a eu quelques-uns. Hein, même Disney a réintégré les 7 samouraïs.
Oui, les 7 samouraïs sont du ski aussi.
Oui. Voilà. Alors que dans les 7 samouraïs, dans les 7 mercenaires, pardon, les mercenaires à la fin sont salués comme des héros.
Oui.
Continuent d'appartenir à la société. Oui. Et puis on a un chef du village qui finit par diverger un petit peu du point de vue de son village dans les 7 mercenaires, alors que dans les 7 samouraïs ça n'existe pas. Le monde D'accord. paysan est vraiment unifié quelque part,
oui.
Que dans les 7 mercenaires j'ai pas eu cette impression.
Mais la société américaine est beaucoup plus jeune aussi dans son histoire, oui. que la société japonaise.
Elle est plus jeune, elle intègre justement là une forme d'héroïsme, oui. qu'on a peut-être moins dans les 7 samouraïs. On parlait d'héroïsme tout à l'heure, là on l'a davantage.
Alors, puisqu'on n'a pas posé la question, qui était Kurosawa ?
Ah oui,
c'est bien. Ça, c'est une excellente question, je vous remercie. Voici la réponse avisée de Jean-François Roger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française.
Akira Kurosawa est aujourd'hui considéré comme un des grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et c'est quelqu'un qui est considéré à la fois par les cinéastes japonais, mais aussi par d'autres cinéastes dans le monde entier, comme un maître, comme quelqu'un qui a eu une influence sur la manière de travailler, de filmer un certain nombre de choses. Et sa philosophie aussi a été très très importante et a été intégrée par beaucoup de ses disciples de tous les pays. Il réalise son premier film en 1943. Et puis après la guerre, vraiment, c'est là que sa carrière commence. Il est très influencé par le néo-réalisme. Il va aborder un certain nombre de genres, pas seulement le cinéma réaliste, mais on sait qu'il va revitaliser le cinéma de sabre, le cinéma à costume, le cinéma à reconstitution historique. Il est le cinéaste japonais qui a été le plus influencé par une culture occidentale, la littérature notamment, Shakespeare, Gorky, les écrivains russes, Dostoïevski. Donc ça, c'est aussi très important quand on veut définir la singularité de Kurosawa.
Eh bien, merci, Monsieur Roger. J'ai
merci, Monsieur
choses,
Roger, oui.
Quoi. Mais alors, je savais, par contre, que pour ces films, Kurosawa a reçu une Palme d'Or à Cannes,
oui.
un Lion d'Or à Venise et un Oscar d'honneur. Pas mal dans une
pas
carrière.
Mal, oui.
Enfin, moi, j'ai pas eu ça, en tous les cas.
Non, non, vous n'avez pas encore fait de film de samouraï.
Oui. Anne-Lise, vous vouliez dire, poser une question ?
Oui, oui. En fait, c'est vrai que les 7 samouraïs ont énormément influencé le cinéma. On l'a vu, le cinéma américain surtout. Beaucoup de films, en fait, s'en sont inspirés. On va retrouver des scènes des 7 samouraïs dans pas mal de films parce que des réalisateurs vraiment le considèrent comme un tournant dans le cinéma. Que ce soit par rapport au plan, par rapport à la réalisation. Et en parlant de scène, pour vous, quelle est la scène qui a le plus d'influence dans ce film-là, sur une vision de votre cinéma ?
Alors, il y en a plusieurs. Une scène qui me paraît, qui moi m'avait marqué, c'est l'utilisation des ralentis. Il y a un duel à un moment oui. donné entre un samouraï et un passant. Et tout se fait au ralenti, notamment la frappe finale lorsque le passant se fait tuer. C'est vraiment c'est un des premiers, je pense, à avoir utilisé le ralenti au cinéma. Et là, on a vraiment toute l'intensité de la scène. Et là, ça m'avait marqué. Je devais avoir 10-12 ans à l'époque. Ça m'avait déjà frappé, quoi.
C'est vrai que c'est un film qui est assez impressionnant parce que le noir et blanc est quand même assez sombre aussi. C'est vrai que c'est un film quand regarder jeune, c'est assez impressionnant. Puis il y a une société qu'on peut ne pas retrouver en fait, qu'on connaît pas trop quand on est, enfin en tout cas en France. Et du coup, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant.
Mais j'ai vu qu'il a été influencé aussi par le néo-réalisme italien.
Oui,
oui c'est ce qui.
Oui, John Ford aussi beaucoup, oui. Par beaucoup de choses. Oui. Mm-hmm.
Ouais. D'accord.
Kurosawa porte un intérêt particulier à la musique de ses films.
D'accord.
Pour Les 7 Samouraïs, il collabore avec le compositeur Fumio Iyazaka.
Il a raison. Alors, une question plus générale pour vous, Stéphane. J'aimerais savoir, on aimerait savoir comment vous est venu le goût des films et du cinéma.
Ah ben, moi j'ai 51 ans, donc le goût du cinéma, c'est les sorties en famille, tout d'abord.
Ouais.
Puis les premières invitations des petites copines. Donc il y avait un petit côté magique, un petit côté spectacle. Voilà, donc premier film Bambi en famille.
Ah, Bambi, c'est commencé par le plus tragique quand même.
Et vous n'avez pas pleuré?
Non.
Non, pop.
J'étais avec ma mère, je l'ai protégée.
Et elle a pleuré?
C'est votre mère qui a pleuré.
Peut-être. L'histoire ne le dit pas.
Mais, oui.
Mais alors, à part ça, c'est Bambi qui vous a donné le goût du cinéma ou il y a autre chose, curiosité personnelle par rapport à l'image, par rapport à ces choses-là?
Une curiosité personnelle. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait La Dernière Séance.
Oui, bien sûr.
Beaucoup de films américains, forcément. Et ça m'a vraiment donné le goût d'écouter ces histoires, de les voir, de les regarder, de se les remémoriser. Un petit peu plus tard, beaucoup plus tard, de participer à l'élaboration de ce genre de choses, à petite échelle, hein, mais bon, premier court-métrage, et puis bah, là, ça se déclenche, quoi.
Très bien. Et alors, maintenant, je vous laisse le soin de nous dire quel a été votre deuxième choix.
Pour le deuxième film, oui.
Pour le deuxième film, bien sûr.
Alors, deuxième choix, on peut parler d'un film plus récent, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino.
Oh. Très bon choix. Comme le premier aussi.
Très, très bon choix. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé du film et puis nous dire pourquoi c'est un très bon film, selon vous?
Bah, c'est l'histoire, en gros, d'un comédien qui est un petit peu sur le retour, donc qui a du mal à s'actualiser par rapport à l'évolution du cinéma, de la manière de faire des films, et qui vit ça d'une façon un petit peu tragique. Donc il va devoir se renouveler dans le contexte du crime perpétué contre Sharon Tate et ses amis des années 60, début 70, je sais plus, 71, 72 par là.
Et alors, avez-vous retrouvé le sens de ce qui faisait le cinéma de Polanski, par exemple, puisque vous faites référence à Sharon Tate.
Oui, c'est pas mal.
Un point pour moi, Anis.
Oui, oui.
Donc Sharon Tate, est-ce que qui était la compagne de Polanski?
Et qui a fini tragiquement.
Et qui a fini tragiquement avec son bébé et ses amis dans une maison à côté de Los Angeles. Quoi,
Alors, si on fait référence à Polanski comme un marquage temporel de l'époque, ce qui faisait référence au cinéma d'avant cette époque, bah, c'est l'histoire de héros qui sont tragiques et finalement assez basiques dans l'interprétation. Qui s'atténuent, qui s'essoufflent et vont émerger de là le cinéma des westerns italiens, ce genre de choses. Non, je n'ai pas retrouvé ça. Pour moi, c'est pas l'histoire du film.
D'accord.
Ouais.
Eh bien, comme on parle du film, voici la bande-annonce.
Ouais.
Moi, c'est Rick Dalton. Enchanté, Monsieur Schwartz.
Appelez-moi Marvin et on se serre la main. C'est votre fils, là?
Non, c'est ma doublure cascade, Cliff Booth.
Hier soir, on s'est fait deux films de Rick Dalton. Ça canarde des secs. C'est vraiment mon truc, ça, toutes ces tueries.
Des tueries, il y en a.
Qui a commandé des saucisses de Francfort bien grillées? Cramez, sale enfoiré de nazi!
T'es acteur?
Non, je suis cascadeur.
Alors t'es toujours avec Rick, hein?
Toujours là.
Tu peux lui faire absolument tout ce que tu veux.
T'es pris comme acteur et que pas comme cow-boy de feuilleton, tu vaux quand même mieux que ça.
Ce courrier de ridicule comme ça devant tout le monde! Putain!
Bon, qu'est-ce qui va pas, mec?
C'est officiel, mon vieux. Je suis un spin.
Je suis à la ramasse. Et devine qui j'ai comme voisin.
C'est moi, Sharon Tate. Je suis dans le film. Dans celui-là, là, c'est moi, je joue Miss Carlson, la cruche.
Dans cette ville, tout peut changer. D'un seul coup.
Hé! Hey, t'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça.
C'est la version française qu'on a écoutée, mais on n'a pas dit un mot sur les acteurs qui jouent dans ce film.
Oui. Il y a qui?
DiCaprio, bien sûr.
DiCaprio. Voilà.
Caprio.
Je ne vois pas qui c'est. Ah oui, Leonardo.
Un petit jeune qui débute.
Oui, d'accord. Et puis c'est tout.
Brad Pitt, évidemment.
Brad Pitt, oui.
Bien sûr. Donc il y a quelques autres bons comédiens. Pour moi, c'est les deux principaux. J'ai rangé le nom du premier qu'on, un des premiers qu'on voit, pardon. Mais vous allez m'aider.
C'est pas Gary Oldman ?
Non, il n'est pas Gary Oldman.
On va chercher ça. Il y a une particularité dans le film, enfin une particularité.
Al Pacino.
Un trait important, comme dans beaucoup de films de Tarantino, c'est le côté musical, l'importance de la musique. Comme souvent, Tarantino se sert de sa propre playlist pour pouvoir illustrer son film. Quelle est l'importance de la musique ? Est-ce que vous pensez, quelle place elle joue dans un film pour vous ?
La musique participe à la narration du film. Elle s'inscrit dans la création d'émotions. Elle s'inscrit dans la contextualisation aussi. On a un film qui se déroule dès tout début des années 70. Donc on a des playlists qui sont raccord à oui. ça. Oui, elle participe à la narration du film.
Est-ce qu'elle raconte une histoire en dehors de l'histoire narrative ? Parce que...
Bah oui, dans une certaine mesure. Après, est-ce que c'est la thématique de Once Upon a Time in Hollywood ? Pour moi, non. Elle participe à la contextualisation du film, elle participe à la nervosité de l'histoire qui est racontée. Pour moi, le film Once Upon a Time in Hollywood, il rend hommage au cinéma,
oui.
au cinéma des années 50, au plaisir qu'on a à simplement aller voir une histoire sur une toile, quand Sharon Tate se déplace au cinéma, qu'elle regarde les spectateurs s'amuser, rire de la voir faire des... C'est un film plus ou moins comique qu'elle joue. Il y a une vraie histoire qui est racontée, il y a une vraie description du plaisir simple d'aller... voir, du d'aller film. Au cinéma, oui. d'aller prendre plaisir à ça. Oui. C'est aussi l'histoire d'une vengeance. Quelque part, Tarantino, pour moi, venge les personnages du film en réécrivant l'histoire à sa manière, mm-hmm. avec toute la flopée de violence qu'on peut lui connaître.
Surtout
Sauf
à la fin.
Là, elle est super teasée parce qu'elle arrive vraiment en fin de film.
Oui.
Et on l'attend.
Et on l'attend.
Parce qu'on connaît Tarantino.
On est presque frustré. Il joue un petit peu avec le spectateur là-dessus. Alors des fois, il libère une petite soupape comme ça, avec le film dans le film, mais c'est vraiment qu'à la fin qu'elle se déchaîne. Quoi.
Alors la très 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 copieuse bande originale du film regroupe principalement des chansons pop-rock des années 60. Et alors, figurez-vous qu'on y retrouve la chanson de 1967, 1230, par The Mamas and the Papas. I used to live in New York City. Dark and dirty. Outside my window was a steeple with a clock that always said 12:30. Young girls have come into the canyon. To say good morning and really mean it. To feel these changes happening in me. But not to notice till I feel it. Young girls are coming to the walking. I can't.
images of beauty by the skyness. Vibration bounds in no direction.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Bien sûr, sur 91.3, O2 Radio, bien entendu. Alors revenons à vous, Stéphane. Je crois que vous avez déjà répondu à la première partie de la question, mais je vais la répéter quand même. Quel est le premier film que vous ayez vu ? Et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était Bambi.
Dans mes souvenirs, c'est Bambi.
Il n'y en a pas eu d'autres avant ?
Ah, je crois pas.
Alors quel est le dernier film que vous ayez vu ?
Alors, dernier film enfin, que
saut.
J'ai vu... Alors,
c'est le saut dans le temps, quoi.
Je pense que c'est Killer of the Flower. Oui, c'est ça, Killer of the Flower.
Scorsese.
Mais je ne l'ai pas vu sur toile.
Ah, ça compte pas, alors.
Ça compte pas.
Alors, le dernier, j'ai...
Vous m'aviez parlé de
Bambi. J'ai pêché ces derniers temps, je me suis moins déplacé.
Vous avez parlé d'un film de Villeneuve tout à l'heure.
Oui, d'une, deux, je pense que c'est le dernier, oui.
D'accord.
Donc, qui m'a bien plu aussi.
D'accord.
Et d'ailleurs, si vous aviez à revoir Bambi maintenant, est-ce que vous le reverrez de la même manière, enfin sur les mêmes...
Alors je le reverrai avec plaisir, ça c'est certain.
Oui.
De la même manière, non, puisqu'on a une plus grande maturité, on ne regarde pas la même chose à 50 ans que
d'où l'intérêt de revoir plusieurs fois le même film.
Bien sûr, tout comme relire les mêmes bouquins.
Exactement. Oula, vous êtes là, Patrick ?
Ah, oui, je suis. Oui, j'ai essayé d'exister un peu, c'est pas toujours facile.
Très bien.
Alors le troisième film de votre sélection d'aujourd'hui... C'est lequel ?
Alors le troisième, c'est un cinquième. On va parler du cinquième élément.
Ah ben oui.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son résumé et pourquoi le choix de ce film ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film-là ?
En gros, c'est une narration très classique d'un monsieur tout le monde, légèrement loser sur les bords, sur qui l'aventure tombe littéralement d'ailleurs,
ouais.
Et qui va devoir sauver le monde. Donc voilà, pour le résumé très très rapide. Alors pourquoi j'ai aimé ce film ? Bah, c'est très simple, je suis un fan de BD, c'est une vraie BD filmée. C'est très bien écrit, c'est très bien réalisé, c'est une vraie aventure, c'est très jubilatoire, c'est très bien fait. Et ouais, là on parlait du plaisir simple du cinéma, bah, là on le retrouve quoi, très simplement.
Mais c'est un spectacle quoi, il n'y a pas de prétention.
Il y a toujours une prétention quand on fait un film comme ça, mais
oui,
oui c'est ça, c'est vraiment du plaisir simple, très jubilatoire, j'adorais ça.
Et est-ce qu'il y a une dimension politique dans le film ou pas ?
Dimension politique, je ne sais pas. C'est d'abord un divertissement. Après, il y a quand même des petites choses qui sont dites sous-jacentes dans le film, sur la société de consommation, sur l'inclusion aussi. On a un président du monde qui est noir, par exemple. On a une jeune femme héroïne qui ne veut pas se laisser embrasser sans permission, par exemple.
Alors que notre
très actuel aujourd'hui.
Notre président du monde à nous, il est orange, il n'est pas noir.
Il est un peu plus orange.
Ouais, c'est pas la même
c'est
chose.
Les UV, c'est pas la même chose. Oui.
On parle pas de révolution orange, là.
Non, pas vraiment.
D'accord.
Le cinquième élément, c'est un peu un remake de La Belle au bois dormant. Le prince n'est pas là pour réveiller la conscience de la belle, l'humanité meurt. La femme sans l'homme ne sert qu'à protéger. Elle ne connaît pas l'amour. L'homme n'est rien sans la femme, car sans sa conscience, l'humanité meurt. Si elle ne s'éveille pas... S'il n'éveille pas la conscience de la femme, l'humanité meurt. Est-ce que cette vision de l'humanité, c'est-à-dire que l'homme n'est rien sans la femme et que la femme n'est rien sans l'homme, n'est pas un peu vieillotte aujourd'hui ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites.
Vous n'avez pas trois heures.
J'ai du mal à trouver le lien là, tout de suite maintenant, avec La Belle au bois dormant, j'avoue. L'homme n'est rien
c'est
sans la
femme. C'est qu'une question de réveil,
femme,
en fait.
La femme, rien sans l'homme, une conception vieillotte, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. L'un ne va pas sans l'autre, on peut dire déjà ça.
Voilà. Oui, Aristophane le disait déjà à l'époque.
Mais est-ce que oui, après il y a pas, ça peut
il
être
bien
aussi, c'est deux C'est aussi une vision du couple et une vision aussi un peu très hétéro dans l'histoire. C'est-à-dire que même si elle a du caractère et qu'il faut qu'il y ait un homme pour éveiller la conscience de la belle et sauver l'humanité.
Je ne suis pas sûr parce qu'en gros, c'est quand même elle qui lui tombe dessus et qui le force à rentrer dans l'aventure.
Littéralement.
Littéralement, voilà. En gros, c'est un extraterrestre. On parle de Lilou Wallace, Multipass, qui est là en fait pour sauver le monde, qui est une arme en vérité. Sauf que elle est incarnée donc par un personnage féminin très naïf. Elle connaît sa puissance, mais elle a du mal à trouver intérêt dans l'humanité, puisqu'elle se renseigne sur l'humanité, elle constate qu'il y a quand même beaucoup de guerres, beaucoup d'horreurs, et donc elle se dit mais pourquoi faire ? Elle se demande pourquoi faire. Et finalement, ce qui déclenche sa décision de servir à sauver l'humanité, c'est l'amour. Donc, est-ce que c'est vraiment elle qui déclenche les choses ? Est-ce que c'est pas le personnage masculin incarné par Bruce Willis ? On peut se poser la question. Toujours est-il que s'il n'y avait pas eu l'amour, elle n'aurait pas la finalité du film. Voilà. Donc, pour moi, alors une vision hétéro des choses, le film, oui, il est hétéro. On a un personnage qui est très androgyne, très incarné par Chris Tucker.
Mais on a un Bruce Willis qui est très musculeux aussi, je veux dire, qui est très, très hard.
Oui, le film de ce côté-là, il s'inscrit sur une vision hétéronormée quelque part. Après, on a quand même d'inclusion quand même. Plus que dans d'autres films de la même époque, je pense.
Mais
c'est vrai.
Quelques exemples. Hein.
Et est-ce que pour vous, est-ce que parce que c'est vrai que le film fait beaucoup référence à d'anciennes, à d'autres films de science-fiction, voire des plans d'autres films de science-fiction. Est-ce que pour vous, c'est un peu du copier-coller ou est-ce que c'est plus un hommage au film de SF dont il...
Alors, hommage, plus qu'un copier-coller à mon sens. Faut pas oublier que ce film a été imaginé quand Luc Besson avait 15 ou 16 ans. Donc il est déjà ancien dans son imagination. On parle beaucoup de références à Blade Runner. C'est vrai que des cités qui grouillent comme ça, une sorte de mégalopole, on retrouve un petit peu l'ambiance de Blade Runner. On a quelques références à Total Recall avec les ongles qui changent de couleur, etc.
On peut classer le film dans
des BD
dystopies.
Aussi des années 60.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça s'inscrit énormément dans un univers BD. Oui. Les décors ont quand même été dessinés par Mézières, hein, c'est celui qui faisait Valérian, Métal Hurlant à l'époque, c'était quand même une BD de référence dans les adolescents de cette époque.
Et donc, Besson est fou.
Voir Mobius, c'est pas Giraud, Mobius c'est Giraud, mais c'est Dargaud qui avait attaqué Luc Besson à l'époque pour plagiat, ils ont perdu. Il y a des références évidemment, il y a beaucoup d'inspiration, à mon sens, des inspirations ou des hommages, je ne sais pas, mais effectivement, quand on crée une œuvre, dans tous les cas, on s'inspire forcément de ce qu'on a connu auparavant. Et c'est plus là-dessus, à mon avis, que ça s'inscrit.
Alors, on va se replonger un tout petit peu dans le cinquième élément, si vous voulez bien, Stéphane. Voici une scène entre Bruce Willis, alias Corbin Dallas, et Ruby Rhode, l'animateur de radio quelque peu déjanté, interprété par Chris Tucker et la voix française de Tom Novembre.
Corbin Dallas, l'heureux vainqueur du grand concours des Jiminy Crockett. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings, il est fugé, les filles. Le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure. Right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde.
Fin de la retransmission.
Ok, Ruby, demain à 17h.
Comment c'était ?
Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi ?
Green, oui.
Green, comment ?
Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Hyper green à la puissance des babes. Green, tu vois ? Mais tu vois le green absolu. Green, un green plus green.
Corbin, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là ?
C'était naze ! Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop !
Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire.
Faut que ce soit green, ok ? Ok ?
Je peux te parler une seconde ? Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green ?
J'ai plus green !
J'adore.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que rien qu'en écoutant le morceau, on revisualise la séquence telle qu'on l'a vue. C'est assez extraordinaire. Mais moi, je voulais savoir, ce voyage dans le temps, bon, on ne sait pas vraiment s'il est du futur ou du passé, hein, mais, parce qu'on a quelques éléments quand même qui nous donnent à penser que ça pouvait commencer largement avant. Mais est-ce que ça vous a donné le sentiment que dans ce monde, tout est fragile et que tout peut se briser facilement?
Non. Alors,
merci. Bon, voilà.
Alors, le film se passe, je pense, davantage dans le futur, même si on a une petite allusion 1914 en préambule du film. Que tout peut se briser facilement, non, pas spécialement. Le film, au contraire, s'inscrit dans une société qui continue d'exister. On a un monde très libéral avec beaucoup d'affiches publicitaires, on a des méga entreprises, hein, la société Zorg, on a des gens qui vont au théâtre, on a des gens qui font du tourisme, on a une société qui vit, donc qui existe dans le cinquième élément. Elle est possible, elle est même probable.
On n'est pas dans une dystopie.
On n'est pas dans une dystopie. Mmh. Alors d'accord, on a des militaires qui sont pas décrits de façon très positive, on a des policiers surarmés, très brutaux. On a quand même des éléments pas très cool en termes de société, mais on est dans une structure qui fonctionne. On a un gouvernement établi, on a un président du monde, on a un système de police, on a une armée, on a une société qui existe, même avec des commerçants, avec des gens qui travaillent. Alors tout est automatisé, tout va dans le sens du travail, tout va très vite. Les gens vivent dans des clapiers, c'est pas forcément réjouissant, mais on est dans une structure qui existe. Et la seule chose qui fait que ça peut disparaître du jour au lendemain, bah, c'est une invasion extraterrestre.
Oui, alors, comme nous, éventuellement, à notre époque, le seul crainte, c'est une invasion extraterrestre, soit des Russes, soit des Chinois, soit des Américains. Quoi. C'est en ça que je voulais savoir s'il y avait un parallèle qui pouvait être fait et que le monde était fragile ou qu'il pouvait se briser.
Le monde est toujours fragile, mais est-ce que c'est vraiment le thème du film? Je ne suis pas sûr que ce soit ça, sa description. Je pense plus qu'on va reparler d'amour. En gros, ça dit quoi? Ça dit que l'amour, c'est ce qui va finir par sauver les hommes, mais d'une invasion qui est tellement hypothétique. On est dans un film où on veut sauver le monde.
Oui, c'est ça, c'est un film d'action.
J'ai pas trouvé ça vraiment dans le film.
C'est plus un film d'action.
Mais qu'est-ce qui va sauver l'amour? Pardon.
C'est vrai que s'il n'y a pas... Et puis, malgré tout, il a aussi la référence à tous les... à toute une philosophie, l'eau, la terre, l'air, le feu, c'est ce qui sauve le monde aussi. C'est parce qu'on retrouve ces éléments-là qu'ils arrivent aussi. Elle arrive à s'éveiller. Enfin, il arrive à la sauver, elle arrive à s'éveiller, et elle sauve le monde et que la société continue en fin de compte, parce qu'après on a tout revit normalement, alors que ils étaient à deux doigts de tout perdre.
Ils étaient à deux doigts de tout perdre. Ils ont même fêté un petit peu tôt la victoire,
ouais,
au niveau des politiques dans le film. Aux quatre éléments dits fondamentaux qui rejoignent une religion dans le film, puisqu'on a un prêtre, hein, qui, ouais, fait partie des personnages principaux. Il en rajoute un cinquième. Il parle de l'amour, tout bêtement. Et ça, c'est ce qui finalement crée le ciment entre tout ça. Et moi, j'ai bien aimé le film de ce point de vue-là. Après, on peut voir plein d'autres choses. Mais j'en vois surtout un divertissement hyper jubilatoire. Hein.
Oui, c'est très positif, ouais, aussi, ouais, ouais, comme vous disiez. C'est vrai que c'est un film qui se laisse regarder très facilement, qui est très bien interprété aussi, qui est au niveau de des plans,
de rêve,
des castings.
Hein.
On n'en a pas parlé du casting, voilà, d'ailleurs, à part Bruce Willis.
Oui, Bruce Willis.
Bruce Willis et Chris Covet.
Ian Holmes. On, oui, a même Mathieu Kassovitz qui intervient de temps en temps.
Zorg, c'est...
Gary Oldman.
Gary Oldman.
C'est une pointure. Donc il y a du beau monde quand même dans ce film. C'est superbement, ouais, interprété. Il y a de très belles interprétations. Les méchants sont crédibles. Ils sont à la fois caricaturaux et crédibles. Donc, ouais, on rentre dans un univers d'enfant quelque part. C'est pour ça que finalement, c'est une BD, ce film. Mm-hmm. C'est une BD filmée, mais sauf qu'il n'y a pas eu de BD au départ. Quoi.
C'est vrai qu'il fonctionne. Même encore maintenant, je trouve que les effets spéciaux sont bien faits parce qu'il fonctionne encore bien. Il ne fait pas vieillot. Il fait pas, et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa à regarder.
Mm-hmm. Alors Stéphane, vous venez de nous prouver que le choix de ce film n'est pas au hasard dans votre trilogie.
Merci.
Absolument. Voilà. Et Annelise, vous parliez d'eau tout à l'heure.
Oui.
Ben, la musique du film est signée Eric Serra. Oui, le rapport.
Oui, le grand bleu.
Exactement. Mais outre la musique d'Eric Serra, on retrouve également Il Dolce Suono de l'opéra Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, interprété par la cantatrice Inva Moula.
Bon.
Merveilleux. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Et
déjà,
oui, et notre dernière question sera d'ordre général.
D'accord.
C'est plusieurs questions dans une. Quelles sont vos préférences au niveau acteur, actrice, réalisateur, genre de film, cinéma?
Alors acteur et actrice déjà dans
acteur
un premier
et actrice.
Temps.
Je vais être très, très, très old school, hein. J'adore les westerns.
Ah, enfin quelqu'un
donc,
d'intéressant.
Paul Prébois, Sim.
Donc Paul Prébois, puis et plus toute la troupe, hein. Bernard Lhermitte.
Bernard Lhermitte.
Thierry Lhermitte, pardon.
C'est le frère, il est très bon, très doué aussi, on en parlera.
Il en pince pour nous d'ailleurs.
Non, j'ai une affection pour les westerns. Ouais.
Ah bah oui.
Donc,
alors quel western a votre préférence
J'ai bien aimé Django Unchained.
C'est pas un western récent, ça. C'est pas un western de la vraie veine ou du western.
Vous êtes John Wayne ou Gary Cooper? Ou les deux?
Plutôt Clint Eastwood.
Ah oui, d'accord. Oui. Vous êtes une génération un peu plus récente.
Ouais.
Alors.
Ouais.
Oui,
c'est
oui,
plus récent.
Oui,
contrairement
c'est,
à
oui,
Patrick.
Oui,
assez,
ah bah moi, c'est John Wayne et c'est Rio Bravo. Donc,
et au niveau réalisateur?
Et actrice d'abord.
Et actrice, ou alors actrice?
Les actrices. Allez, lâchez-vous.
À part Sophie Marceau, bien sûr.
J'ai une petite tendresse pour Sophie Marceau.
Ah, ben voilà,
ah,
à l'époque de la boum.
Parce qu'il était amoureux d'elle quand c'était la boum, donc voilà.
En comédien aujourd'hui, qui vraiment me laisse sans voix, c'est Brad Pitt, me laisse beaucoup, beaucoup sans voix. En termes d'acting, j'adorais Matt
Damon. Moi, j'aime beaucoup de Matt Damon.
On a le droit de citer des comédiens morts ou...
Bah oui,
oui,
bien sûr.
Sauf s'ils ne le savent pas, quoi.
Céro, j'adorais.
Bah oui,
pour moi, il pouvait tout jouer. Un bon comédien, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vraiment tout jouer et de façon expressive. J'aime moins les actings intériorisés. Je suis plus Belmondo que Delon, par exemple.
Oui, d'accord. D'accord.
Et au niveau actrice ?
Au niveau comédienne, j'adore Binoche.
Ah, enfin quelqu'un d'intéressant.
J'aime beaucoup son jeu.
Est-ce que vous appréciez Anaïs de Moustier ? Parce que
Meryl Streep.
On en a parlé la semaine dernière.
Ah, bah, je comprends.
Oui. Pour moi, elle sait tout faire.
C'est vrai, c'est de la trempe, c'est une des grandes.
Faut voir Out of Africa, faut voir ce genre de choses.
Ouais, par exemple.
Comme un peu Glenn Close aussi, qui a cette, un peu cette force.
Elle a eu son passage à vide, malheureusement, pour elle.
Nicole Kidman aussi, on peut la citer quand même.
Nicole Kidman, j'aime beaucoup, c'est une très bonne comédienne, mais je l'ai moins vue. Donc, elle mériterait peut-être d'être davantage vue en tant que comédienne, oui.
Et alors les réalisateurs, ou réalisatrices d'ailleurs ?
Alors, dans le trio de tête, Kurosawa, Kubrick, Tarantino, et j'aime de plus en plus Clint Eastwood en tant que réalisateur.
Bah oui, bah, faut se dépêcher de l'aimer. Hein.
Oui, je sais bien. Je sais bien.
On est sur la fin.
J'aime Villeneuve aussi, il y a beaucoup de choses à voir.
Hitchcock ?
Je ne sais pas si c'était tout le monde. Hitchcock, oui, c'est ça a un petit peu vieilli pour moi.
Oui.
Donc, Fenêtre sur cour, j'ai adoré ça. Les oiseaux, j'ai adoré ça. Mais c'est différent.
C'est cinéma qui a vieilli.
C'est un petit peu vieilli. Ouais. Ça se regarde moins facilement, peut-être.
Ouais. On est passé sur d'autres codes aussi, sur d'autres manières de réaliser.
Aujourd'hui, le rythme est plus rapide, un peu plus effréné. Il y a une grande tendance qui est de citer dans ces films des auteurs ou des films précédents. On parlait de références cinématographiques, Blade Runner, etc. Ça. C'est bien, hein, mais je suis pas. C'est pas ce qui moi va faire de ce film qui en cite beaucoup un grand film. C'est ok, c'est un hommage, très bien, mais c'est pas ce qui va raconter l'histoire.
Finalement. Jacques Tati ?
Non.
Non. Je n'insisterai pas.
Ettore Scola ?
J'en connais pas.
Comencini ?
Je connais pas.
Visconti ?
Oui, un petit peu quand même.
Oh. Ça va, Jean-Jacques ?
Oui.
On aime les félins quand même.
Et au niveau du genre, plutôt donc western, vous en avez d'autres ?
Bon, après, je suis comme beaucoup de gens. J'aime beaucoup le cinéma de Terrence Malick, assez contemplatif, très introspectif. Tree of Life, pour moi, c'est une merveille. On parlait de Brad Pitt encore comme comédien. Là, il est exceptionnel là-dedans. Quoi. Donc, vraiment, il sait tout faire, ce type. Terrence Malick en contemplatif, j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai vu Nomadland il n'y a pas très longtemps, qui est un film de Zhao, je crois qu'elle s'appelle.
Ouais, Chloé Zhao, oui.
Film fait avec une toute petite équipe en lumière naturelle, mais exceptionnel.
Il y a eu un Oscar d'ailleurs.
Ouais,
il n'y a pas d'antagonisme dans ce film. On n'est pas dans l'opposition de personnes, de concepts, etc. C'est juste une belle histoire. Et moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est de raconter d'abord une belle histoire.
Alors, quelles que soient les histoires, quelles que soient les époques, quels que soient les gens, allez au cinéma.
De toute façon,
il y a de quoi faire.
Oui. Pardon, même encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Hein,
Et voilà, Ciné-Sans. Voilà. Eh bien, Ciné-Sans, c'est fini pour aujourd'hui.
On vient d'arriver, c'est pas sérieux.
Vous allez pouvoir continuer à faire partie de la grande histoire ou de la petite ou de notre histoire. Bref, continuons l'histoire. Allez. À ce propos, vous pouvez nous réécouter sur le podcast d'Eau de Radio, rubrique Ciné-Sans, et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Eh bien, nous, il nous reste à remercier Stéphane Guégan, qui
merci
a été notre
Stéphane.
Invité aujourd'hui.
Merci beaucoup,
qui
Stéphane.
A été une très belle participation. Et on aura le plaisir de se retrouver, je pense, plus tard sur des plateaux de cinéma, sur les
avec
plateaux de tournage.
Avec grand plaisir.
Ou dans des salles.
Ou dans des salles, oui, parce que Stéphane, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est aussi un membre éminent de la Chambre Noire, qui est une association de cinéma qui est à Mérignac.
Et on fait des films.
Et on fait des films, bien sûr. Et donc, nous nous retrouverons mardi prochain pour un nouvel épisode, oui ! Et nous retournerons, nous, en 1977,
non,
l'année de naissance.
Alors, nous nous retrouvons en 2017.
En 2017, oui, c'est pareil. C'est 40 ans après.
À quelques années près, c'est la même année.
C'est la même année, il y a déjà des chiffres en commun. Donc, en 2017, l'année de naissance d'Anne-Lise.
Et ce sera à 14h sur Eau de Radio 91.3, bien entendu. Oui. Et on se quitte avec la chanson Perle du jour.
Oui, alors en 1980, la chanteuse Paola représente la Suisse lors de l'Eurovision avec une chanson sur le cinéma. Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Pour la petite histoire, elle finit en quatrième position avec 104 points. Voilà.
Comme elles disent aujourd'hui.
Et le titre est Cinéma. Mais c'est un cinéma vu par le prisme de l'enfance.
Allez, à mardi prochain et en attendant...
Bon vent à tous.
Toute petite, quelquefois, il me prenait par la main. Et heureuse, à petits pas, je marchais par les chemins vers la ville aux mille lumières, aux côtés de mon papa, vers le monde extraordinaire et magique du cinéma. Peter Pan.